Bonjour chers fidèles d'IDFM et de cette émission Rendez-vous Compte. Aujourd'hui, je vous convie à un voyage douloureux, certes, mais nécessaire dans un passé qui commence à s'estomper dans la nuit et le brouillard, mais qui garde tout son sens aujourd'hui. Rendez-vous Compte. Bonjour Gino.
Bonjour Didier, bonjour à toutes et à tous.
Gino Zamparouti.
C'est ça, exactement.
Bonjour également à Renate Trieux et Angela Metzger de Soisy sur Montmorency pour leur action déterminée et sans relâche pour la mémoire, sur laquelle nous reviendrons au cours de l'émission. Alors, Gino, Saint-Loupien ?
Oui, c'est ça, de Saint-Loup-la-Forêt.
Depuis quand ?
On est arrivé en 2000 à Saint-Loup.
Ah bah ça va, c'est facile à retenir.
Oui, c'est facile.
En même temps, italien ?
C'est ça, ouais, du côté de mon papa.
D'accord, de quelle région ?
On est originaire du Frioul, au nord-est de Venise.
Alors Gino, tu es Saint-Loupien, d'autant plus que tu as été élève au collège Vanda Landowska.
C'est ça.
De Saint-Leu, et en particulier l'élève d'une personne que je connais bien, que j'aime beaucoup.
Moi aussi, de Madame Bervas, Anne Bervas.
Voilà, Madame Anne Bervas-Leroux, qui est donc professeure de lettres, et dont le mari Bruno s'intéresse beaucoup à la culture aussi.
Bien sûr, oui.
Puisqu'il vient d'être élu adjoint à la culture à Saint-Leu. Alors Gino, je suis très heureux de te recevoir au micro de ce Rendez-vous Compte, car tu es à l'origine d'un projet associatif qui me touche personnellement beaucoup. Lequel ?
C'est une association qui s'appelle Les Routes du Souvenir et qui essaye modestement de travailler sur les questions de la mémoire, notamment du mémoire des crimes de masse qui ont été faits durant la Seconde Guerre mondiale, et en particulier de la Shoah et du génocide des Roms et des Tziganes.
Alors je crois que l'association est née un 2 août.
Oui, c'est ça.
Alors pourquoi cette date ?
Parce que c'est une date qui est un petit peu méconnue, qui est moins restée dans la mémoire collective, mais dans la nuit du 2 au 3 août, on commémore justement ce dont je parlais juste avant, le génocide des Roms et des Sintés en Europe.
Alors les Sintés, qu'est-ce que c'est ?
Les Sintés, ce sont ce qu'on appelle, alors les Tziganes, c'est un mot un petit peu particulier, mais les Sintés, ce sont les gens du voyage de l'Europe de l'Ouest, et les Roms, ce sont les gens du voyage de l'Europe de l'Est.
Voilà, qui ont été victimes aussi de la barbarie nazie.
Bien sûr.
Alors, l'association a organisé du 13 au 17 février dernier un voyage, lequel ?
On organise un voyage mémoriel à Cracovie, donc avec une visite du camp d'Auschwitz-Birkenau, pour ouvert à tous, et qui a pour ambition justement de faire découvrir, de faire une œuvre de mémoire, peut-être même plus que de faire de l'histoire, autour de la question de la Shoah, sur les traces des camps d'extermination nazis.
Voilà, on va revenir dans quelques instants sur le déroulement précis de ce voyage qui a eu lieu au mois
bien
de février,
sûr, oui.
Bien de février 2026. Alors, dans les statuts de l'association, il est marqué que à l'heure où les témoins directs viennent à manquer et où les esprits sont troublés par des affrontements idéologiques, il est nécessaire de retrouver le sens de l'histoire. Alors, ça veut dire quoi, le sens de l'histoire ?
La question du sens de l'histoire, c'est qu'on est aujourd'hui dans une époque, mais c'est absolument pas idéologique ni politique, mais on a tendance à lire l'histoire, tous les grands événements historiques. L'histoire est faite de faits et d'événements, donc de continuité et d'événements, de ruptures dans la continuité. Et on a une tendance naturelle, extrêmement simple, je suis pas sûr que ce soit propre à notre époque, pour être tout à fait honnête, mais on a tendance à la lire à l'aube de nos propres considérations, de nos propres normes, et de nos propres émotions contemporaines. Et retrouver le sens de l'histoire, c'est retrouver dans le passé, de reconstruire un récit dans le passé, en partant du passé lui-même et non pas notre présent.
Alors, quelle est l'origine de ce projet ? Quand même une origine, disons, transalpine, on va dire.
Oui, c'est ça. Il y a une association en Italie qui s'appelle le Train de la Mémoire, et qui organise depuis plus de 20 ans en Italie maintenant, c'est la 21e année je crois que cette année, ils organisent des voyages à Cracovie, le même genre de voyage que celui qu'on a organisé cette année. C'est une association auquel j'ai participé, j'ai été d'abord visiteur avec eux, puis membre, organisateur, et cette association a emmené aujourd'hui plus de 70 000 Italiens, notamment de jeunes Italiens en grande majorité. Il y a quelques groupes d'adultes, mais c'est très majoritairement des lycéens de 18 ans ou alors les premières années d'université. Et ils organisent donc ce voyage à Cracovie, aussi à Ravensbrück, à Mauthausen, à Berlin, au mémorial de la Shoah. Et donc, tout d'abord, avant de monter cette association en France, j'ai participé à mes côtés italiens cette fois-ci.
D'accord. Et alors donc, pour la première fois, un groupe de Français a été invité à participer à ce voyage.
Voilà, c'est ça. C'est la première fois qu'un groupe d'un pays hors italien, donc un pays étranger, est invité à participer à ce voyage commun, donc franco-italien, sur les routes du souvenir.
Alors, avec un but quand même, faire vivre la mémoire de la Shoah, de ses victimes.
Bien sûr, oui, ça reste l'ambition. Alors, plus même que la Shoah, c'est-à-dire vraiment la réflexion qui est ouverte par les routes du souvenir, c'est de réfléchir collectivement sur la question du nazisme, à la fois du côté des victimes, comme vous le disiez, mais aussi du côté des bourreaux. Toutes les réflexions qu'on engage, notamment durant le voyage, elles impliquent tout autant une mémoire des victimes, mais aussi une réflexion sur le bourreau, sur qui il est, comment on en est arrivé là, quelle société a pu engager un tel processus d'extermination, et comment c'est évidemment, comme le pouvait le dire Primo Levi, qui est donc une référence pour nous transalpins, ou d'origine, ou les vrais Italiens, évidemment, comment cela est toujours une possibilité de notre humanité.
Voilà, Primo Levi qui a raconté sa propre expérience de déporté dans son livre fameux qui s'appelle « Si c'est un homme ».
Si c'est un homme, c'est ça.
Voilà. Alors, avant d'entrer plus en détail dans le déroulement et la philosophie de ce voyage mémoriel, première pause musicale, Gino, tu as demandé à entendre un chant italien de résistance, lequel ?
Fisca il vento, ça s'appelle. C'est un chant italien qui est moins populaire que Bella Ciao, qu'en général les gens connaissent un petit peu plus, qui est rentré dans la culture populaire et notamment dans les séries télévisées aujourd'hui, on l'entend très souvent. Fisca il vento, c'est un chant de partisans qui a été écrit en 43, qui est inspiré de chants soviétiques et qui était plutôt celle des partisans communistes italiens.
Allez, on écoute.
IDFM, 98FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous retrouvons Gino Zamparuti, qui continue à nous parler du voyage mémoriel en Pologne autour de la Shoah, qu'il a organisé au mois de février dernier avec son association Les Routes du Souvenir. Gino, le voyage a commencé avec une visite théâtralisée de la ville de Cracovie.
C'est ça. Le premier soir, alors on est arrivé le matin tous ensemble, à part quelques personnes qui venaient en dehors de l'Île-de-France, qui sont arrivées un petit peu plus tard, mais le premier soir, à 19h30, on avait une visite théâtralisée qui était organisée avec deux acteurs français, deux acteurs de Paris, qui sont venus avec nous en parallèle, hein, ils ont fait les visites avec nous, mais qui ont aussi donc joué cette petite pièce, et ils se situaient dans des lieux un petit peu particuliers de la mémoire de la Shoah à Cracovie. Et ils ont incarné, et l'un et l'autre, donc une jeune femme et un jeune homme, des nazis. C'est pour ça que c'est ce que je disais en préambule par rapport au travail sur les bureaux, les bourreaux. Ils ont incarné des nazis dans les lieux spécifiques, notamment non loin de l'ancienne commandantour ou d'un ancien lieu de déportation, et ils invitaient les voyageurs à participer à leur pièce de théâtre pour réfléchir à la manière dont nous-mêmes on peut épouser ces mouvements-là, c'est-à-dire qu'ils nous faisaient faire des gestes qui n'ont absolument rien à voir avec le salut nazi, mais des gestes, et pour vous regarder comment est-ce que les dynamiques de groupe, les dynamiques de masse pouvaient nous conduire nous-mêmes à reproduire ces gestes-là. Et c'était assez étonnant, le résultat, c'est que les 30 participants français, donc il y avait aussi 20 Italiens avec nous, on y reviendra peut-être, mais les 30 participants français ont tous réalisé ces gestes. Et c'était une réflexion sur comment est-ce qu'on peut nous-mêmes se faire entraîner extrêmement facilement lorsqu'on est sous contrôle social dans des dynamiques de masse et de groupe.
Exactement. Il y a eu des expériences de psychologie comme ça où on demandait, un professeur de psychologie demandait à un candidat comme ça, un peu choisi au hasard, d'infliger des chocs électriques à des gens en face d'eux qui n'étaient pas capables de retenir une certaine liste de mots. Et c'est donc une expérience très connue. Voilà. Alors, ensuite, visite guidée de l'ancien ghetto juif de Cracovie.
C'est ça, oui. On a fait cela le lendemain matin. L'ancien ghetto juif de Cracovie et l'ancienne ville, l'ancien quartier juif de Cracovie. Donc c'est des lieux qui sont extrêmement émouvants. L'ancien quartier juif de Cracovie, donc avant la ghettoisation, est en excellent état. C'est un lieu où il y a encore une petite communauté juive, où il y a un cimetière juif. Et l'ancien ghetto, il est dans l'état, il en reste pas grand chose. Il est dans un état encore assez délabré. Il nous reste quelques murs, quelques vestiges du mur du ghetto. Mais c'est à peu près tout.
Avec, je crois, une place où on a des chaises qui représentent les disparus, je crois.
Exactement. On a une place, c'est l'entrée du ghetto. L'entrée du ghetto, on a le mur non loin et la fabrique de Schindler juste à côté. Et il y a une grande place avec des chaises sur lesquelles on a été faire ensemble une commémoration avec le groupe de Français.
Alors, bien entendu, hein, tu l'as dit, l'ancienne fabrique de Schindler. Alors, Schindler, petit rappel historique.
Schindler, c'était un industriel allemand, figure un petit peu controversée de l'histoire, parce qu'il a été effectivement un nazi convaincu. Il a fait énormément d'affaires avec le régime. Nazi convaincu, probablement pour des motifs économiques. Mais c'est quelqu'un qui va rentrer dans l'histoire. Alors, d'abord avec le film de Spielberg, qui va évidemment le mettre en lumière. Mais aussi parce que dans sa fabrique, qui fabriquait du matériel pour la Wehrmacht, pour l'armée allemande, il va utiliser les juifs du ghetto et notamment du camp qui est dans un camp voisin qui est dans Cracovie, qui est une dépendance, une succursale de Auschwitz qui s'appelle le camp de Plazov. Il va avoir des ouvriers juifs et il va au fur et à mesure de la guerre se débrouiller pour en sauver. On estime qu'il y en a sauvé entre 1200 et 1300 si je me trompe pas, mais donc il va rentrer dans la catégorie des justes, hein, de ceux qui ont sauvé des juifs durant le génocide. Ça reste une figure un petit peu controversée de notre histoire parce qu'il y a une part d'ombre, une part d'intérêt particulier, mais il est par contre incontestable que son action a permis de sauver un millier de vies.
Alors le film a été tourné en 93, hein, le film de Spielberg, à Cracovie, oui. Justement pratiquement sur les lieux où sont déroulés les événements.
Exactement, on a eu la chance d'avoir une guide extraordinaire cette année en Pologne, francophone, hein, évidemment polonaise. Francophone qui nous a emmené aussi sur les lieux de tournage du film, parce qu'ils ont tourné, alors pas dans l'ancien ghetto, ils ont tourné dans l'ancien quartier juif qui l'est encore, mais de manière beaucoup plus diffuse, parce que la population a été massivement déportée. Et on a été voir un des lieux du tournage, qui est un lieu spécifique du quartier juif.
Pardon. Voilà, immense succès public. 7 Oscars quand même.
Oui. Hein.
Mais aussi une vive polémique, notamment autour de Claude Lanzmann, celui qui avait réalisé la série Shoah.
Oui, exactement.
Ça. Alors qu'est-ce que reprochait Claude Lanzmann à Spielberg en fait ?
Il lui a reproché la question. C'est un reproche qui continue, qui persiste aujourd'hui, mais que d'autres films ont connu, comme La Vie est belle en Italie. Hein. C'est la question de la représentation, de la possibilité de la représentation de la Shoah d'un point de vue cinématographique, mais on a eu d'autres, hein, même le mouvement de la critique allemande d'après-guerre qui expliquait qu'on ne pouvait plus Adorno, Horkheimer, qui réfléchissait sur le fait de la possibilité même de faire une poésie après Auschwitz, après la Shoah. Et donc effectivement le film de Spielberg n'a pas échappé à cette critique de la représentation de l'ineffable, de l'irreprésentable, qui est donc le génocide.
Voilà, on va écouter la bande-annonce en français du film de Steven Spielberg.
La loi m'obligea à vous le dire, monsieur, je suis juif.
Bon, moi je suis allemand. Et puis voilà.
Vous voulez ces gens-là ?
Mes gens, je veux mes gens.
Qui êtes-vous, Moïse ?
On dit que votre usine est un havre. On dit que vous êtes bon.
Qui dit ça ?
Tout le monde.
Ce que vous devez faire, c'est me dire ce que ça vaut pour vous. Ce qu'une personne vaut pour
non,
vous.
Non, non, non. Ce qu'elle vaut pour vous.
C'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne le fait pas.
Cette liste, c'est la vie. Quiconque sauve une vie, sauve le monde entier.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous conte où nous retrouvons Gino Zamparouti qui continue à nous parler du voyage mémoriel en Pologne autour de la Shoah qu'il a organisé au mois de février dernier avec son association Les Routes du Souvenir. Alors Gino, après la visite théâtralisée de la ville de Cracovie, de l'ancien ghetto juif de Cracovie toujours et le musée de l'ancienne fabrique de Schindler, soirée théâtre.
Soirée théâtre avec une pièce de théâtre qui donc s'est jouée en italien. C'est joué en italien quand on s'est réunis avec l'ensemble des Italiens du train de la mémoire, hein, de leur association pour cet événement. C'est le premier événement commun véritablement qu'on faisait ensemble. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Bent de Sherman, qui parle d'un sujet un petit peu transversal à la question de Auschwitz particulièrement. C'est celle de la place des homosexuels dans les camps de concentration, donc notamment à Dachau. Et c'est une pièce de théâtre qu'on a donc vue en italien, mais qui était dont j'ai fait les sous-titres en français. Et ça a plutôt fonctionné, même si le sous-titrage de théâtre est un petit peu particulier, mais ça a bien marché, je crois.
On va écouter un extrait de la bande-annonce de cette pièce de Martin Sherman, hein, qui s'appelle Bent, et qui est interprétée par la compagnie Artaban. C'était en 2012.
Tiens, café. Prends ton donne, ça te paye.
Je devrais m'haïr, n'est-ce pas ?
Oh, oh. Bonjour, on transporte les pierres d'ici à là-bas et de là-bas à ici. Qui c'était ? Le brun, c'est celui sur qui tu es tombé.
Voilà, on va écouter aussi un extrait de la bande-annonce de Bent, hein, le film de Sean Mathias, adapté de la pièce de Sherman. Mais alors, particularité, c'est que Mick Jagger jouait l'un des personnages.
Streets of Berlin, I must leave you soon. Oh, will you forget me? 'Cause I'm really here.
Après cet extrait de la bande-annonce de la pièce de Martin Sherman-Benn consacrée aux crimes nazis avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, je voudrais rendre un hommage particulier à deux élèves du lycée Notre-Dame de Bury, Andrea Selivestrou et Alexandre Lebaille, qui ont monté au mois d'avril dernier dans leur établissement la pièce de Bertolt Brecht, Grand-peur et misère du Troisième Reich. On écoute Andrea expliquer sur RBR, la web radio du lycée, les raisons qui l'ont motivé pour monter ce spectacle. Andrea.
Grand-peur et misère du Troisième Reich, c'est une pièce de théâtre qui raconte quel impact a eu la montée de l'extrême droite nazie en Allemagne de 1933 à 1938 sur le quotidien des familles allemandes. J'avais très envie de faire un projet théâtral à Bury, j'aime beaucoup le théâtre, c'est une discipline avec laquelle j'entretiens un réel lien d'âme. Et c'était pour moi très important à titre personnel de monter un tel projet. Lorsqu'on choisit une pièce de théâtre, on a envie que le public soit touché, que ce soit impactant. Et c'est pour ça que je cherchais une œuvre qui fasse sens et qui fasse écho avec ce que l'on vit aujourd'hui et l'actualité. Et c'est pour cette raison que je me suis dirigée vers Grand-père et misère du Troisième Reich. Le parallèle est évident. Et j'admire beaucoup le travail de Brecht, qui a une écriture moderne que je trouve formidable et qui me permettait de travailler en transversalité avec plusieurs disciplines artistiques, que ce soit la vidéo, le son, la musique. Et c'est une chance inouïe que de pouvoir casser les codes du théâtre et se détacher un maximum du théâtre classique.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Nous sommes toujours bien sûr IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous retrouvons Gino Zamparuti qui continue bien sûr à nous parler du voyage mémoriel en Pologne autour de la Shoah qu'il a organisé au mois de février dernier avec son association Les Routes du Souvenir. Alors Gino, après la visite théâtralisée de la ville de Cracovie, l'ancien ghetto juif, le musée de l'ancienne fabrique de Schindler et la représentation théâtrale de la pièce de Martin Sherman intitulée Bent, visite incontournable des camps d'Auschwitz I et Auschwitz II.
Exactement, c'était le troisième jour du voyage, c'est un petit peu le climax de ce séjour. C'est une visite qui est extrêmement, extrêmement particulière. Alors cette année, contrairement aux autres années, on a commencé par la visite de Birkenau, de Auschwitz II, hein. C'est-à-dire le camp d'extermination, qui est extrêmement vaste. Alors il y avait une température, il faisait très très froid, il faisait moins 10 degrés cette année, il avait beaucoup neigé. Et on est rentré parmi les premiers dans le camp de Birkenau, qui est absolument, c'est extrêmement difficile à concevoir quand on n'y a pas été. C'est très très grand, c'est vraiment immense, donc on ne peut pas, même en une journée, envisager de tout visiter, et en même temps je suis pas certain que ce soit l'ambition de ce genre d'aventure, de séjour. On n'est pas là pour visiter mais pour se souvenir. Alors on a fait la partie gauche du camp et on a eu des moments extrêmement forts collectivement avec une guide qui nous a appris énormément de choses mais qui nous a pas ménagé non plus. On a été voir le baraquement des enfants notamment, ces expériences qui sont assez difficile pour tout le monde. On a aussi traversé l'intégralité du camp en longueur, donc pas en largeur évidemment, mais en longueur. On a été voir les vestiges de la chambre à gaz numéro 4, la chambre à gaz numéro 3. On est passé à côté du camp des Tziganes. Donc c'était une visite un petit peu particulière le matin. On a eu une petite pause midi où on a pu un petit peu souffler tous ensemble par rapport à ça. Les premières conversations se sont engagées, puis on a pris le bus, parce que peut-être que les auditeurs et les auditrices ne savent pas, mais il y a un certain trajet à faire entre Auschwitz I et Birkenau, ou Auschwitz I, Auschwitz II. On s'est rendu à Auschwitz I, donc le camp de concentration, qui est une ancienne caserne militaire polonaise, qui est lui extrêmement bien conservé. C'est assez étonnant. Et on a fait la visite de Auschwitz I dans l'après-midi. C'est une visite beaucoup plus historique peut-être que celle du matin. Alors il y a évidemment des espaces qui laissent personne indifférent, c'est-à-dire le baraquement où on retrouve les cheveux,
voilà,
les lunettes.
Exactement, cheveux des femmes, la pièce réservée aux jouets des enfants.
Exactement, ouais. Oui, aux lunettes, on retrouve les lunettes, les valises avec le nom des familles de déportés. On a aussi tout le bloc 17 avec les blocs des tortures véritablement, avec les premiers gazages qui étaient donc des gazages contre des communistes, hein, contre des soviétiques. Les premiers gazages à Auschwitz n'ont pas eu lieu contre des juifs ou des tziganes, mais contre des opposants ou des prisonniers de guerre. On a aussi donc une visite. On a visité le bloc France. On a été les seuls à le faire. On était seuls à l'intérieur. C'est un bloc qui a été ouvert il y a pas longtemps. Et où le camp d'Auschwitz a décidé de rendre hommage à des grandes figures et de la résistance et de la déportation. On y retrouve par exemple Simone Veil. Et à la fin de cette journée, on s'est retrouvés, donc après la sortie de Auschwitz 1, on s'est retrouvés avec les Italiens, la Judenrampe. C'est peut-être un lieu qui est méconnu aussi des auditeurs et des auditrices parce que c'est la véritable gare de débarquement des déportés. Tout le monde a tendance à croire que c'est celle de Birkenau qui est un petit peu plus connue. La gare, celle-ci a été ouverte très tardivement. Elle a été utilisée notamment pendant le génocide des Juifs hongrois, donc en 44, à la fin de l'extermination dans ce camp. Et la Judenrampe, c'est la véritable rampe de débarquement. Les déportés se retrouvent à 1 km à peu près de 2 km de Auschwitz 1, peut-être 800 mètres de Birkenau. Et on s'est rendu là avec les 700 Italiens et on avait tous choisi un nom. Dans le livre qui se trouve à Auschwitz 1, on avait tous choisi un nom et l'ambition était de faire lire ce nom devant tout le monde et de dire je me souviens de toi. Par exemple, mon nom c'était Jan Bochowski. Aujourd'hui on s'est retrouvé il y a peu de temps, chacun se souvient du prénom qu'il a lu et c'était un moment extrêmement fort puisqu'on était 700. Et c'était un moment extrêmement émouvant. On s'en souvient. Je crois que c'est un moment qui a beaucoup marqué les visiteurs, ceux qui ont fait le séjour avec moi, mais aussi tous les jeunes Italiens qui étaient avec nous.
Alors effectivement, moi, pour avoir aussi visité ces deux camps, c'est extrêmement oppressant. On se sent très très mal. Et personnellement, ce qui m'a un peu soulagé, c'est quand j'ai vu des enfants qui étaient vêtus de couleur claire et qui jouaient entre les miradors. Et ben à la fin de la visite, ça fait du bien, quoi, on va dire.
Bien sûr.
Hein, la vie continue et les enfants incarnent peut-être cette innocence qu'il faut quand même préserver tout en les mettant en garde contre le retour de tels faits qui est toujours possible, on va dire.
Bien sûr. Si je peux me permettre juste une toute petite chose, après la visite, donc on a fait le retour en car à Cracovie. C'est juste pour raconter ça, mais c'est extrêmement important de comprendre qu'on a eu des moments de vie après la visite de Auschwitz-Birkenau. On a eu des moments de vie collectifs extrêmement forts, notamment le soir où on s'est retrouvés dans un bar tous ensemble, c'était un groupe extrêmement hétérogène, hein. Et on s'est retrouvés tous ensemble à discuter de cela et ça passait du rire aux larmes, mais il y a eu aussi évidemment des moments de rire, des moments de grande détresse émotionnelle, mais comme vous le disiez très bien juste avant, fondamentalement on a en sortant de ces camps un besoin de vivre, c'est pas qu'une expérience tragique, c'est aussi une expérience humaine.
Nouvelle pause musicale, Gino, tu as demandé à entendre le chant des marais.
Oui.
Alors le chant des marais, qu'est-ce que c'est ?
Le chant des marais, c'est un chant qui a été redécouvert finalement assez récemment, je crois. Il faut pas ignorer que dans les camps de concentration et d'extermination, et c'était aussi d'ailleurs valable dans les goulags soviétiques, il y avait des orchestres de déportés très souvent, enfin même exclusivement, c'est déportés. Et donc le chant des marais, c'est un chant qui a été écrit par les premiers déportés allemands communistes dans un camp qui s'appelle Borgermoor, et c'est un chant qui a donc été traduit ensuite en français, et c'est un petit peu le chant, comme peut l'être le chant des partisans pour la résistance, c'est un petit peu le chant des déportés, le chant des marais.
Voilà, donc l'idée quand même des SS, c'était de faire jouer par des détenus eux-mêmes, le matin et le soir, en quelque sorte, pour favoriser la synchronisation des pas, le comptage des détenus. Enfin ça, c'est bien une idée qui ne peut germer que dans des esprits complètement malades, mais malheureusement très bien organisés.
Tout à fait.
Voilà. Alors, ça a été chanté ce chant pour la première fois, d'après mes recherches, devant un millier de prisonniers. Succès immédiat, évidemment, parmi eux, mais aussi parmi les gardes. Et en quelque sorte, il va devenir l'hymne du camp, mais il va être très vite, bien sûr, interdit par la direction du camp. Enfin, c'était assez incroyable. Nous allons écouter ce chant des marais, interprété par la garde républicaine lors de l'entrée au Panthéon du cercueil de Simone Veil et de son mari, Antoine Veil, le 1er juillet 2018, Simone Veil, bien sûr, rescapée de la Shoah, académicienne, ancienne ministre et ancienne présidente du Parlement européen.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Nous sommes toujours bien sûr IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous retrouvons Gino Zamparouti qui continue bien sûr à nous parler du voyage mémoriel en Pologne autour de la Shoah qu'il a organisé au mois de février dernier avec son association Les Routes du Souvenir. Alors Gino, ce voyage était ouvert à toutes et à tous sans aucune distinction.
Oui, tout à fait. C'était un voyage. On a eu un groupe, comme je le disais précédemment, extrêmement hétérogène. Le plus jeune avait 22 ans, le plus âgé en avait 84. Et c'était un groupe avec on retrouvait des chrétiens, des musulmans, des juifs, des athées, toutes générations confondues, des jeunes de quartiers plus populaires, des personnes venant de province. On a eu des Rennais, des Nantais, des personnes de Dunkerque, du Jura, après essentiellement des Saint-Loupiens pour le reste. Mais c'était un voyage effectivement ouvert à toutes et tous, et ça a extrêmement bien fonctionné entre les gens. Ça a créé une communauté qui continue d'exister aujourd'hui. On s'est retrouvé le 8 mai, il y a quelques temps, on s'est retrouvé le 8 mai tous ensemble, tous ceux qui pouvaient en tout cas, pour se souvenir du voyage, pour fêter nos retrouvailles tous ensemble. Et puis on a eu ce moment extrêmement fort le lendemain de la visite d'Auschwitz, la réunion avec les Italiens. Je tiens ici au passage juste à remercier très rapidement Alice, Elena, Fiodor et Paolo, qui sont donc les quatre co-organisateurs de ce voyage côté italien, mais ce sont aussi quatre amis aujourd'hui. Et on a fait cette réunion commune, franco-italienne, où on a pu débriefer et unir le groupe à cette occasion, le lendemain matin. Et donc c'était vraiment un très beau moment, et ça a montré aussi les possibilités, le fait qu'on peut élargir, qu'on peut se rencontrer tous ensemble, par-delà des différences de genre, d'origine, de religion, d'âge générationnel aussi évidemment. Et donc c'était un très très beau séjour, c'était un très beau groupe, je dois le dire.
Et je crois qu'une des participantes avait eu sa mère qui avait été cachée, comme ça se faisait beaucoup, cachée entre guillemets, comme catholique, pour échapper justement au rafle.
Oui, ça a été un témoignage. Elle est venue avec son fils, qui est un ami, Arnaud, que je salue ici au passage. Et ils sont venus tous les deux. Elle a eu surtout ses grands-parents à elle, donc à la maman, ont été déportés. Donc les arrière-grands-parents de mon ami, ils ont été déportés. Ils sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, sa maman avait été cachée. C'est des histoires familiales extrêmement, extrêmement lourdes, mais des témoignages précieux que eux-mêmes ont découvert, d'après ce qu'ils nous ont dit, que eux-mêmes ont découvert assez récemment. Et c'était un moyen aussi, durant la réunion, de partager ça. Ça a beaucoup touché, ça nous a tous beaucoup touchés. Et on était ravis de les avoir à nos côtés, évidemment.
Voilà, il existe une petite ville qui s'appelle Chambon-sur-Lignon, qui a accueilli pendant la guerre beaucoup d'enfants juifs, disons, cachés, présentés comme catholiques pour leur sauver la vie.
Bien sûr, oui, exactement.
Et j'ai même rédigé une histoire à ce propos, peut-être que je diffuserai un jour sur les antennes. Voilà. Alors Gino, tu expliques dans la présentation de ce voyage que le plus dur a été la solitude après le retour.
Oui, toujours, et pour tout le monde, c'est un constat général. On s'est tous beaucoup appelés après le voyage, on s'est tous beaucoup écrits après le voyage. Et effectivement, c'est paradoxal, hein. Mais durant les visites, durant la pièce de théâtre, qui est extrêmement lourde aussi, hein, la fin étant tragique, mais ça pouvait pas être autrement, évidemment, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'amitié. On est tous ensemble, donc c'est finalement digérable. C'est assez étonnant, c'est pas forcément le bon terme, mais je le pense vraiment comme ça. On l'a tous assez bien digéré, puisque comme je vous disais, on passe du rire aux larmes, on va sortir tous ensemble, et on a ces deux jours après la visite pour vivre ensemble autre chose. Alors certains sont venus avec moi au camp de Plazov, après d'autres ont fait autre chose, d'autres visites, les mines de sel de Cracovie, ou alors on est juste tout simplement allé au restaurant tous ensemble. Et donc le sentiment de solitude et le fait de réaliser ce qu'on a vu, assez étrangement, ne vient pas tout de suite. Ça a été très très dur pour beaucoup le lendemain, c'est-à-dire le mercredi, on est rentré donc le 18, enfin on est rentré le 17 au soir, mais c'est le 18, et beaucoup de gens sont passés à la maison, à Saint-Leu, parce qu'ils ne supportaient pas, et moi le premier, hein, tout à fait, j'étais pas du tout différent à ce niveau-là. On avait beaucoup de peine. On a vraiment réalisé ce qui s'était passé, ce qu'on avait vu, et les images reviennent quand on n'a plus personne avec qui les partager. C'est un sentiment assez étonnant. Et donc oui, effectivement, le retour du voyage est presque plus difficile que le voyage en lui-même.
Voilà, c'est ça, c'est le post-traumatique, on va dire.
Exactement.
Alors, nouvelle pause musicale, on va écouter Jean Ferrat interpréter la chanson Nuit et brouillard, une chanson de 1963. Alors, Jean Ferrat rend hommage, bien sûr, aux victimes des camps nazis, tout en évoquant son histoire personnelle, marquée par la déportation et la mort de son père à Auschwitz, lorsqu'il avait 12 ans. Alors ce titre, Nuit et brouillard, renvoie au décret nazi, Nacht und Nebel, hein, qui organisait la disparition dans le brouillard et la nuit, et la déportation des opposants au Troisième Reich. Alors, 1963, lorsque cette chanson a été composée par Jean Ferrat, c'était l'heure de la réconciliation entre l'Allemagne et la France. Alors, la chanson n'a pas été diffusée à la radio et la télévision, sous l'influence, dit-on, directe de l'Élysée, et elle fut fortement déconseillée par le directeur de l'ORTF de l'époque. Elle passe tout de même un dimanche à midi sur la première chaîne dans la fameuse émission Discorama de Denise Glaser. Succès immédiat et Jean Ferrat va recevoir pour cette chanson le grand prix du disque de l'Académie Charles Cros. Alors à signaler que la chanson a été interprétée avec la langue des signes lors de l'entrée au Panthéon du cercueil de Simone Veil et de son mari Antoine Veil le 1er juillet 2018. Mais on va écouter la version de Natacha Esdra, enregistré à l'Escale, dans la ville de la Loire qui s'appelle Vauche, le 8 avril 2016.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers. Ils aimaient, tremblant, quand ces fagots flambaient, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ, qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. N'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des Miradors. La lune se tairait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez.
IDFM, 98FM.
Autre version de Nuit et brouillard, celle de Renaud. Renaud qui, dans son album intitulé Métèque, sorti en 2022, reprend un certain nombre de chansons françaises et dont le titre, Métèque, vient de la chanson célébrissime, Le Métèque de Georges Moustaki. Donc on écoute Renaud interpréter Nuit et brouillard.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, les émettre tremblants dans ces wagons plombés. Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste que d'ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. suite monotone et sans hâte du temps. Se vivre encore un jour, une heure obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ, et en finissent par de distiller l'espoir. S'appeler Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage, ceux qui sont revenus devaient-ils être heureux, ils essaient d'oublier, ils tournaient qu'à leur âge. Les veines de leurs bras sont devenues si bleues. Les Allemands étaient du haut des miradors, la lune de se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. Me dites à présent que ces mots n'ont plus cours. Il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai des mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez incessants, vous étiez des milliers, vous aimez être tremblants dans ces lagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez incessants.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous conte où nous retrouvons Gino Zamparuti, qui nous a parlé du voyage mémoriel en Pologne autour de la Shoah, qu'il a organisé au mois de février dernier avec son association Les Routes du Souvenir. Je vous disais au début de l'émission que je souhaitais adresser un salut très amical à deux habitantes de Soisy, Angela Metzger et Renate Trieux, que j'ai reçues à ce même micro pour leur action inlassable et déterminée pour une cause mémoriale, elle aussi, une cause mémorielle elle aussi, liée à cette période de la Deuxième Guerre mondiale et qui consiste à obtenir de la municipalité de Soisy que soit enfin reconnue la présence sur la commune du couple de résistants Lucie et Raymond Aubrac qui ont séjourné une douzaine d'années après la guerre. Je vous renvoie à la rediffusion du 7 mai dernier de notre émission du 8 mai 2025 en podcast sur la page Rendez-vous compte d'IDFM. Alors, à la mémoire de Lucie et Raymond Aubrac, mais aussi de tous les résistants, on va écouter la magnifique interprétation par Léo Ferré du poème « Strophe pour se souvenir » écrit en 1955 par Louis Aragon, qui rendait hommage aux 23 immigrés, étrangers, nos frères pourtant, résistants FTP Moy, francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée, dont bien sûr Manoukian, fusillé au Mont-Valérien le 21 février 1944, quelques mois avant la libération de Paris. Version de Léo Ferré, suivie de celle de Feu Chatterton, lors de l'entrée au Panthéon des cercueils de Missak et Méliné Manoukian, le mercredi 21 février 2024.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant. L'affiche qui semblait une tache de sang par ce qu'a prononcé vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos mort pour la France. Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard, en y rêvant,
IDFM Radio, 98 FM.
Gino, tu es porteur aussi de bien d'autres projets. Lesquels ?
Oui, alors cette association qui évidemment travaille donc sur les routes du souvenir, donc pas seulement une. On essaye d'ouvrir au maximum, notamment avec mon ami à Nice, que je salue là aussi. On essaie d'ouvrir au maximum notre travail à d'autres enjeux mémoriels ou alors tout simplement contemporains. Le souvenir se crée dans l'instant, toujours. Donc on a, par exemple, alors première chose que je peux dire, c'est que cette année, par exemple, je suis intervenu dans des lycées autour de la question de la Shoah, notamment au lycée Jacques Prévert de Taverny, avec mon ancien professeur d'histoire, comme quoi c'est un
peu... On peut donner son nom.
Jérôme Sublime et Monsieur Ardouin. Alors le prénom m'échappe, mais Monsieur Ardouin, qui était son collègue, que je n'ai jamais eu, mais qui est un excellent professeur aussi. On a fait une conférence sur, pas exactement sur la Shoah, mais précisément sur Auschwitz. On a eu 1h40, j'ai donné 1h40 d'explications sur le fonctionnement vraiment véritablement du camp, sur les premiers gazages, notamment l'action T4, donc en dehors évidemment d'Auschwitz, mais les premiers gazages contre les personnes en situation de handicap, qui sont souvent ignorés. Pareil, dans notre histoire, c'est quand même 250 000 personnes en situation de handicap qui ont été massacrées par les nazis.
Souvent dans des camions roulants, enfin qui se déplaçaient.
Exactement. Ou alors directement dans les asiles psychiatriques où on faisait des trous et on mettait des gaz d'échappement de camions. Le supplice pouvait durer jusqu'à 24 heures. Hein. Ce sont des témoignages et ils l'ont. Et donc j'expliquais aussi à quel point tout ça était lié à des médecins. C'était la grande discussion qu'on a eue avec les élèves après cette conférence. C'était des gens comme tout le monde. C'est extrêmement compliqué à comprendre. Et c'est pour ça qu'on travaille sur les bourreaux, toujours avec eux. On a évidemment parlé des victimes. Mais on a eu une grande discussion sur les bourreaux. On a parlé par exemple du docteur Klauberg, parce que tout le monde connaît, enfin tout le monde, beaucoup de gens connaissent Mengele, mais oublient le docteur Klauberg, qui par exemple stérilisait les femmes à l'aide de produits chimiques à Auschwitz. Mais on a parlé d'autres médecins, d'autres hauts dignitaires. Et c'était l'occasion de réfléchir non pas seulement à qui était massacré, mais qui massacrait. Et la grande surprise des élèves, je crois, ça a été de comprendre que ces gens-là étaient comme eux, comme nous, comme leurs parents, et parfois comme des figures d'autorité absolue, c'est-à-dire des professeurs qui ont laissé faire, des policiers qui ont laissé faire, des médecins qui ont laissé faire, et aussi des professeurs, des policiers, des médecins qui ont participé. Donc ça, c'est une autre initiative que l'on fait. On a aussi participé cette année en présence de Fiodor Verzola, mon ami italien, assesseur à la jeunesse à Nichelino. On a participé aux cérémonies du 8 mai à Saint-Leu-la-Forêt avec le maire Monsieur Loïc Vidal, que je remercie là aussi. On a aussi d'autres initiatives historiques, notamment le Salon du Livre en juin, où on va présenter des livres sur la résistance à Turin, enfin à Nichelino précisément, en périphérie turinoise. Et on a un projet l'année prochaine qui est en construction. On espère qu'il se fera. C'est une coupe du monde à Saint-Leu-la-Forêt avec des différentes équipes représentées. Nos amis de Wendlingen avec lesquels Saint-Leu est jumelé, nos amis de Nichelino, donc avec lesquels on espère pourra se nouer plus qu'un pacte d'amitié, mais un véritable jumelage. Et puis d'autres équipes avec des personnes qui viennent de tous les horizons. J'ai trouvé une équipe algérienne, marocaine, espagnole, portugaise, sud-américaine. Alors ce sera Amérique du Sud parce qu'il y a des Chiliens, des Argentins d'origine, d'ivoirienne, malienne, etc. Et l'ambition, ce serait de faire une grande fête populaire où on fait une Coupe du Monde de football avec évidemment des ventes de choses à côté et tous les bénéfices permettraient d'acheter des fournitures scolaires pour les enfants. L'année prochaine, en fin d'année prochaine, on l'espère.
Coupe du monde de foot, évidemment.
Oui, de foot, oui, bien sûr, ouais. Coupe du monde de foot.
Et qui aurait lieu au Diablo, à Saint-Leu, c'est ça?
Exactement.
Le quartier des Diablos.
Exactement, c'est l'ambition. On espère faire ça parce que c'est les infrastructures le permettent, mais c'est aussi un moyen d'intégrer des quartiers qui sont plus défavorisés à Saint-Leu-la-Forêt, de les faire participer à la vie de la commune, et surtout que l'essentiel des jeunes qui veulent y participer sont de là-bas, et c'est aussi un bon moyen de faire comprendre que il y a aussi des grandes initiatives qui peuvent se nouer dans ces quartiers.
Et un projet de jumelage aussi, je crois.
Oui, il y a un projet de jumelage avec la ville de Nichelino qui a donc vraiment commencé ce 8 mai, qui a été lancé avec ce voyage à Auschwitz. Donc c'était un jumelage presque associatif, puisque nos associations sont jumelées aujourd'hui. Mais on a aussi maintenant fait quelque chose de plus politique dans toutes les vertus que peut avoir dans le sens vertueux du mot politique, évidemment. On a fait venir donc cet adjoint à la jeunesse, Fiodor. On a eu une réunion extrêmement fructueuse donc avec Bruno Leroux notamment, Loïc Vidal le maire, Fiodor, mon ami, et on a discuté des projets d'avenir, de ce qu'on pourrait faire ensemble, un partenariat franco-italien autour des questions de la jeunesse d'abord, mais pas seulement. L'ambition d'un jumelage, elle n'est pas uniquement de créer des voyages ou des ponts entre les jeunes, mais aussi des ponts entre nos communautés franco-italiennes.
Alors voilà, pour rester dans l'atmosphère de l'après-guerre, dernière pause musicale, Barbara, Göttingen, une chanson de 1965, un véritable hymne à la paix, à l'amitié et à la réconciliation franco-allemande. On écoute Barbara, Göttingen.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai et pas de rengaine qui se lamentent et qui se traînent, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Seine. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, qu'à il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Là. Même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen.
IDFM 98 FM.
Gino, notre émission se termine. Un dernier mot?
Mais tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Ça a été un grand plaisir. Non, un dernier mot, ce serait simplement de dire que cette initiative va se poursuivre. On est déjà en train d'organiser ce séjour l'année prochaine, toujours à Cracovie, toujours sur 5 jours. Je pense, au vu des retours, que ce serait intéressant de garder le même programme. Tout simplement, si les gens sont intéressés, si les auditeurs et les auditrices sont intéressés à l'idée de le faire, ils peuvent me contacter, soit par mail, donc à gino@lesroutesdusouvenir.com, ou très prochainement, peut-être sur les réseaux sociaux. On essaye de construire les réseaux sociaux, c'est pas notre fort, mais on va essayer de faire quelque chose, une page, et évidemment, c'est ouvert à toutes et tous. Donc faut pas hésiter, si vous avez envie de participer à une ou quelques actions qu'elles ont fait, on serait ravis de vous accueillir, ravis de les faire avec vous.
Voilà, on mettra les coordonnées de l'association sur la page de podcast de Rendez-vous Compte sur IDFM. Voilà, ainsi se termine notre Rendez-vous Compte consacré cette semaine à Gino Zamparouti, à son association Les Routes du Souvenir et à tous ses projets auprès de la jeunesse, mais pas seulement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de Rendez-vous Compte sur IDFM, évidemment. C'était Didier, et en attendant, je vous retrouve également dimanche matin dans la matinale de Mehdi pour ma chronique Nec plus Ultra, consacrée aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque. À bientôt.